Prélude, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Stéphane Marin à la technique. Aujourd'hui, les vies de Johann Strauss, père et fils, les enchanteurs de Vienne. Avec l'aimable autorisation des éditions musicales Accor, collection Le Petit Ménestrel, les vies de Johann Strauss, père et fils, texte de Claude Dufresne, dit par Jean Rochefort, avec Raymond Acquaviva, Jean-Paul Courguelin, Gérard Dournel et Michel Mellory, Lucienne Troca, Guy Verda, musique extraite de l'œuvre des compositeurs.
Bonjour mes amis, connaissez-vous cette musique? Bien sûr, ce sont des airs de valse et je suis certain que vous les avez déjà entendus. Je suis certain aussi que vous aurez souvent du plaisir à les entendre. Depuis un siècle et demi, elle court le monde, apportant partout où elle passe la joie de vivre et d'aimer. Oui, depuis 150 ans, elles ont fait naître bien des sourires, consolé bien des chagrins, ému et ravi bien des cœurs ces jolies valses. Mais si chacune d'elles est différente des autres, elles ont toutes la même patrie et la même famille. Elles sont toutes nées à Vienne et elles sont toutes signées du même nom, Strauss. Imaginons aujourd'hui que l'un des membres de la famille Strauss revienne parmi nous pour nous conter la belle histoire de ces valses. Êtes-vous prêt à l'écouter? Oui? Alors, laissons-le parler.
Nous étions trois, mon père, que l'on appela par la suite Johann Ier, mon frère Joseph et moi, Johann II, trois qui allions faire tourner le monde au rythme de nos valses et au gré de notre fantaisie. Trois qui allions semer la joie avec nos cœurs et nos archets, car c'est la légende de la valse que nos violons ont créée, une légende que notre famille a vécue avec enthousiasme. Et c'est l'histoire de cette famille que je vais vous raconter à travers sa musique. Vienne, dans les années 1820, ne ressemblait à aucune autre ville du monde. Du Prater au bois de Schönbrunn, sur toutes les places, dans toutes les rues, ce n'était que bals et cafés où les Viennois dansaient et chantaient à perdre haleine jusqu'au petit matin. Dans ces établissements, des orchestres plus ou moins nombreux, plus ou moins brillants, se produisaient. Le plus souvent, ils étaient formés de musiciens ambulants qui jouaient tout autant pour leur plaisir que pour les quelques pièces qu'ils gagnaient. Pour les Viennois, la musique était aussi nécessaire que l'air qu'ils respiraient. La plus petite auberge se croyait obligée d'avoir son orchestre. C'est ainsi que sur les bords du Danube, au cœur d'un des quartiers les plus pauvres de Vienne, dans une modeste taverne qui avait pour enseigne « Au beau berger », un garçon d'une quinzaine d'années écoutait, plein d'admiration, quatre musiciens qui jouaient sur une estrade de fortune.
Johann, encore en train de musarder au lieu de travailler. Tu n'as rien d'autre à faire que d'écouter ces donneurs de fausses notes. Allons, allez, retourne à ton atelier.
Mais papa Gruber, j'écoute la musique. Vous savez que mon plus cher désir est d'être musicien.
Musicien, musicien, comme si c'était un métier. Le spectacle de ces gratteurs de cordes que j'emploie pour quelques gulden devrait éclairer.
Mais l'argent n'est pas tout, papa Gruber. Regardez comme ils semblent heureux.
Maudit soit le jour où je t'ai offert un violon.
Vous m'avez fait là le plus beau cadeau du monde.
Ah, écoute, mon garçon, ton père et ta mère sont morts. Je t'ai adopté et je me dois de te protéger. Je t'ai choisi un bon métier, sérieux, celui de relieur. Tu te rends compte? Relieur.
Je regrette, papa Gruber, mais j'ai horreur de l'odeur de la colle. Et puis, j'adore la musique.
Il aimait tellement la musique, celui qui allait être mon père, le fondateur de notre dynastie, qu'il prit une grande décision. Il envoyait la reliure au diable et obéit au destin pour lequel il était fait, celui de musicien. Le relieur, son patron, ne l'entendait pas de cette oreille. Pour mettre à la raison son apprenti rebelle, il l'enferma dans un placard. Mais il est bien difficile de retenir en cage un oiseau qui veut s'envoler. Johann se présentait donc quelques jours plus tard à Michael Palmer, qui dirigeait l'orchestre de danse le plus célèbre de Vienne. Étrange personnage que ce Palmer, qui se consacrait plus encore à la boisson qu'à la musique.
Alors, comme ça, tu veux rentrer dans l'orchestre du grand Palmer, et si jeune, quel âge as-tu?
Je n'ai que 16 ans, monsieur Palmer, mais j'ai déjà plusieurs années d'expérience.
Bon, nous verrons ça, mon garçon. Avec ta tête de bohémien et tes cheveux frisés et noirs, tu plairas à la clientèle féminine. Même si tu ne joues pas bien. Bon, allez, c'est bon, je t'engage.
Oh, merci, monsieur Palmer. Vous ne le regretterez pas, je vous servirai de mon mieux.
Dans l'orchestre, mon père avait pour compagnon de pupitre un jeune garçon, à peine plus âgé que lui, Joseph Lanner. Bientôt, les deux jeunes gens furent inséparables.
Johann, j'ai une grande idée. Au lieu de continuer à être exploité par le père Palmer, je vais former mon propre orchestre, et tu vas en faire partie. Qu'en penses-tu?
C'est une idée merveilleuse, Joseph. Mais tu n'as pas d'argent. Avec quoi paieras-tu ton orchestre?
Au début, nous ne serons que quatre. Toi, moi et les deux frères Drahanek. Ils sont d'accord.
Mais moi aussi, Joseph, je marche avec toi. Et je sais comment nous pouvons vite nous rendre populaires. Nous jouerons les airs que ces musiciens ambulants venus de Bohème nous ont fait entendre.
Tu veux parler des valses? Mais elles sont inconvenantes. As-tu regardé les couples danser? L'homme serre sa cavalière dans ses bras.
Et alors, quel mal y a-t-il à cela? Vienne n'est-elle pas la ville du bonheur? Eh bien, la valse sera la danse du plaisir, et elle nous apportera la fortune.
En attendant, Lanner et mon père connaissaient des jours difficiles. Les repas étaient rares et maigres. Pour diminuer les frais, ils partageaient la même chambre. D'ailleurs, ils partageaient tout, même leurs vêtements.
Johann, passe-moi la chemise de soirée. À mon tour de la porter ce soir. Une seule chemise pour deux, quelle misère. Et dire que d'après toi, la valse devait nous apporter la fortune.
Patience, elle viendra bientôt, je le sens.
Et puis, soudain, vint la célébrité. Les belles mélodies de Lanner, jointes au rythme endiablé de Johann Strauss, firent d'un seul coup la conquête de Vienne. Les valses qu'il composait ne ressemblaient à aucune autre musique. Elles entraînaient les danseurs dans un tourbillon de joie qui paraissait ne devoir jamais s'arrêter. Les jolies viennoises n'étaient pas les dernières à se précipiter dans le tourbillon. Mon père, avec sa belle chevelure noire et bouclée, son teint hâlé qui semblait lui venir des mers du sud, son regard sombre et profond troublait bien des cœurs. Mais le sien ne battait pas pour autant. Ou plutôt, il battait trop souvent pour qu'il songeât à aliéner sa liberté en se mariant. Et pourtant, un jour...
Mademoiselle Anna, j'aime vous entendre. Vous jouez de la guitare comme personne d'autre.
Oh, monsieur Strauss, c'est vous qui me dites cela? Ce compliment me touche beaucoup. La musique est mon univers.
Voilà un étrange langage dans la bouche d'une jeune fille. Vous avez un goût musical très sûr. Vous écrivez des poèmes merveilleux. Vous peignez avec talent, vous.
Mais pourquoi est-ce étrange, monsieur Strauss? N'est-il pas naturel de vouloir profiter de tout ce que la vie nous apporte de beau?
Anna, chère Anna, il y a, semble-t-il, un mystère dans votre vie. Si je ne craignais d'être ridicule, je dirais que vous êtes une fée venue d'un conte fabuleux.
Johann, puis-je vous confier un secret de famille? Vous me jurez de ne rien dire à personne?
Je vous le jure. Mais dites vite, vous piquez ma curiosité.
Vous avez en partie raison, Johan. Je suis la petite fille d'un grand d'Espagne qui a dû fuir son pays à la suite d'un duel funeste où il a tué un infant royal. Il s'est réfugié en Bohême et pour vivre, il s'est fait cuisinier. Mais il n'a pas pu résister à ce déshonneur et il est mort de chagrin.
Ah, je savais bien que vous n'étiez pas pareil aux autres. La distinction de vos manières, la sûreté de votre goût, la clarté de votre esprit me disaient bien qu'un sang noble coulait dans vos veines.
Chut, Johan, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un grand secret.
En vérité, ce grand secret était surtout un gros mensonge. Anna Strem était la fille d'un ancien cocher devenu aubergiste et le grand-papa, grand d'Espagne, appartenait à la légende. Mais il était vrai que si ma chère maman avait une ascendance roturière, son intelligence, sa sensibilité, sa culture valaient largement cet aïeul aristocrate qu'elle avait imaginé. D'ailleurs, mon père ne s'y trompa point. Il ne laissa pas échapper un pareil trésor. Johann et Anna se marièrent un jour de 1825, et c'est de cette façon que je vins au monde le 25 octobre de la même année. Mon père avait tenu absolument à me donner son prénom de Johann, sans se douter des ennuis que ce choix lui apporterait.
Je t'annonce une grande nouvelle. Je me suis disputé avec la nerf. Je forme mon propre orchestre.
Je ne suis pas surprise, Johan. Ta personnalité est trop forte pour que tu demeures longtemps dans l'ombre d'un autre. Tu vas aller très loin, Johan. Du haut de ton estrade, tu règneras sur Vienne et le peuple de notre ville ne se lassera pas d'acclamer le roi de la valse.
Comme toujours, les prophéties de ma mère allaient se révéler exactes. Bientôt, mon père ne sut plus où donner de l'archet. Mais Vienne n'était pas seule à lui apporter ses suffrages. L'empereur Ferdinand lui-même ne tarda pas à entendre parler du roi de la valse.
Monsieur de Metternich, vous voulez vraiment que je nomme maître des balles de la cour ce Johann Strauss, ce saltimbanque?
Sire, monsieur Strauss nous rend depuis des années un service inestimable. C'est en qualité de premier ministre que je l'affirme à votre majesté.
De quel service s'agit-il donc?
Eh bien, tant qu'ils écoutent les valses de Strauss, nos Viennois n'entendent pas les rumeurs de révolte qui viennent des autres pays d'Europe. Croyez-moi, sire, c'est un temps précieux que Strauss nous fait gagner.
Les Viennois n'étaient d'ailleurs pas les seuls à réclamer mon père et ses musiques miraculeuses. L'Europe voulut faire la connaissance du magicien de la valse. À Paris, devant le vieux roi Louis-Philippe, à Londres, devant la jeune reine Victoria, il allait de triomphe en triomphe. Mais chacun de ses nombreux succès l'éloignait davantage de son foyer. Et quand il revenait, ce n'était pas pour y semer la joie.
Qu'est-ce que j'apprends, Anna? Johann veut devenir musicien?
Quoi de plus naturel? Il a trouvé la musique dans son berceau.
Jamais, tu entends? Jamais je ne consentirai à ce que ce vaurien déshonore mon nom. Écoute-moi bien, Anna. Il y a un Johann Strauss. Un seul. Il n'y en aura pas un autre.
Non, cette fois, je ne m'inclinerai pas simplement pour satisfaire ton orgueil. Notre fils sera musicien comme il le souhaite. Je lui ferai même donner des leçons. Et puisque tu ne veux pas que sa gloire serve la tienne, eh bien, elle l'éclipsera.
Thank you.
Bientôt, mon père déserta tout à fait notre foyer. Trading, ma mère s'efforçait de cacher son chagrin à ses enfants. Mais devant sa détresse, je décidai de prendre mes responsabilités.
Je me sens capable de montrer à Johan Ier que Johan II est digne de lui. Grâce à toi, maman, j'ai pu prendre des leçons de musique. Tu m'as donné ce qu'il y avait de meilleur en toi. À présent, c'est à moi de vous protéger, toi, mes frères et ma sœur.
Mais que vas-tu faire?
Je vais former mon propre orchestre et jouer mes propres œuvres. Et mon père verra de quoi je suis capable.
Oh, il ne te laissera jamais faire. Tu sais comme il est puissant, tu ne trouveras pas dans Vienne une salle pour t'accueillir.
Pas dans Vienne, peut-être, mais aux portes de Vienne, oui. Et j'y ai déjà trouvé. Et j'ai rédigé l'annonce du concert. Écoute, invitation à une soirée dansante qui aura lieu le mardi 15 octobre 1844 au casino de Dommeyer à Yetzing. Johann Strauss, le fils, aura l'honneur de diriger pour la première fois son propre orchestre.
Oh, c'est merveilleux. Oh, mon Johann. Si tu réussis, mon sacrifice n'aura pas été vain. J'ai versé tant de larmes à cause de ton père, mais j'ai le sentiment que c'est déjà le passé. Je vais oublier tous mes chagrins grâce à toi.
Cette nouvelle avait soulevé dans Vienne une émotion extraordinaire. Voilà que Johann Ier, le roi de la valse, était défié par son propre fils. Il n'en fallait pas plus pour diviser la ville en deux camps farouchement opposés. Quant à mon père, il était entré dans une colère effroyable.
Enfin, Hirsch, vous êtes mon impresario! Il faut empêcher ce scandale! Ma réputation va en souffrir!
Oh, mais, mon cher maître, on ne peut pas empêcher Dommeyer d'accueillir dans son casino qui bon lui semble!
Alors! Vous allez laisser mon fils me braver publiquement sans rien faire.
Non. J'ai une idée toute simple, mais efficace. Hein. Voilà, j'ai loué la moitié des places du casino et j'ai engagé une troupe de figurants. Nous écouterons tranquillement le premier morceau. Et ensuite, ce sera le tumulte, le chahut, la confusion. Voilà, croyez-moi, ce premier concert du jeune Strauss sera aussi le dernier. Vous continuerez de régner sans partage sur Vienne.
En pénétrant dans la salle du casino Dommeyer, j'étais conscient de l'importance de ce premier combat. Toute ma carrière dépendait de cet instant. Mais la pensée de venger ma mère de toutes les épreuves qu'elle avait dû subir suffisait à me donner des ailes. Ce combat, j'étais décidé à le gagner ou à mourir. Je connaissais l'existence de la cabale que l'impresario de mon père avait montée contre moi. C'est pourtant d'une baguette décidée que je donnais à mon petit orchestre le signal du départ.
Thank you. monsieur Hirsch, vous applaudissez.
Mais bien sûr, je fais comme tout le monde. Bravo! Bravo! Vive Johann Strauss, fils!
Mais vous aviez dit de siffler!
Ah oui, peut-être, mais c'était avant. Je ne pouvais pas prévoir que nous assisterions à la naissance du nouveau roi de la valse. Bravo! Bravo! Bravo, Strauss, fils!
Je vous rappelle, monsieur Hirsch, que vous êtes l'impresario de Strauss, père!
Monsieur, avant d'être impresario, je suis viennois!
Ce fut un triomphe. Du jour au lendemain, la valse avait un nouveau roi. Dans tout Vienne, on se répétait ce que Ludwig Vist, le plus célèbre journaliste d'Autriche, avait écrit. « Au revoir, Strauss, père. Bienvenue à vous, Strauss, fils. » Sans doute étais-je bien jeune pour supporter le poids d'une telle renommée. Pour paraître plus sérieux, j'avais laissé pousser ma moustache, mais au fond, je n'étais encore qu'un gamin. Et si j'étais heureux de mon succès, c'était avant tout pour ma mère.
C'est formidable, les journaux ne parlent que de moi. Tous les établissements de la ville me réclament. Je t'avoue que la tête me tourne un peu.
Bonjour, Anne, je suis fière de toi. À présent, te voilà lancée dans le tourbillon de la vie. Tu n'as plus besoin de moi?
Mais au contraire, maman, j'en ai besoin plus que jamais. Tu seras mon impresario, mon conseiller. Je ne ferai rien que tu n'aies décidé. Et tout l'argent que je gagnerai te permettra d'élever mes frères et ma sœur. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui leur servirai de père.
Mon père prenait toujours aussi mal le succès de son fils. Car la soirée du casino d'Hommeyer n'avait pas été un feu de paille. Le peuple de Vienne vivait désormais au rythme de ma musique, comme il avait vécu au rythme de la sienne. Les valses succédaient aux polkas, les compositions aux compositions. Il semblait que mon inspiration ne se tarirait jamais. Depuis des lustres, l'Autriche vivait dans l'insouciance et surtout dans l'ignorance de ce qui se passait au-delà de ses frontières. Même la Révolution française n'avait pas réussi à ébranler le vieux trône des Habsbourg. Mais on ne peut indéfiniment plonger un peuple dans le sommeil. À nouveau, c'est de France que venait l'appel de la liberté. Les troubles de février 1848 qui avaient chassé Louis-Philippe du pouvoir allaient trouver chez nous de puissants échos. Les étudiants donnèrent le signal, et bien entendu, avec tout l'enthousiasme de ma jeunesse, je me joignais à eux. Les airs que je composais portaient tous des titres de circonstances. Valse de la liberté, marche de la révolution, marche des étudiants. Cette activité à la fois artistique et politique avait alerté les autorités qui me considéraient comme un individu dangereux. Quant à mon père, c'était pour lui une nouvelle occasion de s'emporter. Car bien entendu, lui s'était rangé du côté du pouvoir.
Ce garçon est décidément incorrigible. Une fois de plus, il me déshonore. Ah, si seulement je n'avais pas eu la fâcheuse idée de lui donner le même prénom que moi.
Il est jeune. À son âge, il est naturel de choisir une cause qu'on croit généreuse.
Oh non, Hirsch, non, je vous en prie. Ne prenez pas toujours sa défense. Ou je finirai par croire que vous regrettez de ne pas être son impresario, au lieu d'être le mien.
Oh non, mon cher Strauss, non, non, je suis ravi d'être votre impresario. Mais ceci n'empêche pas que votre fils ait du talent, et même beaucoup de talent.
Bon, bon, nous verrons bien. Mais en attendant, vous allez présenter à Sa Majesté cette marche que j'ai composée. Et qui, je n'en doute pas, va exalter l'enthousiasme de ses partisans. Ils ont bien besoin de quelque chose qui les réveille.
Thank you.
Malgré la marche de Radetzky, les affaires de la cour n'allaient pas bien. La révolution avait gagné les rues de Vienne. Joseph, mon frère cadet et moi n'étions pas les derniers à nous jeter dans la bataille.
Johann, que fais-tu avec ce fusil?
Je vais monter la garde à la grande barricade du Prater.
Un musicien sur une barricade? Quel tableau! Tu es fait pour tenir un violon, pas un fusil.
Maman, il y a des circonstances où un musicien doit redevenir un homme comme les autres et n'écouter que sa conscience.
Hélas, les troupes impériales contre-attaquèrent et les libéraux furent vaincus. La répression fut sanglante. Pourtant, le vent de liberté qui s'était levé sur Vienne ne cesserait plus désormais de souffler. Le vieux Metternich, après 40 ans de pouvoir absolu, avait dû s'enfuir, et l'empereur Ferdinand céda son trône à son neveu François-Joseph, tout juste âgé de 18 ans. Quant à moi, j'étais évidemment très mal vu par les autorités.
Sire, je viens vous demander de faire remettre en liberté le jeune Johann Strauss, qui a été arrêté hier. Ce serait une excellente façon d'inaugurer votre règne.
C'est vous, monsieur le chef de la police, qui me demandez de libérer un dangereux révolutionnaire? Ce Strauss n'a-t-il pas été arrêté pour avoir fait jouer la Marseillaise par son orchestre?
C'est un musicien, sire.
Il pourrait mieux choisir son répertoire.
Sire, pour les Viennois, Strauss est un symbole. Nous avons assez de prisonniers dans les geôles de votre majesté. Un de plus ne nous est pas nécessaire.
Soit, relâchez-le. Mais qu'on ne me reparle plus jamais de ce monsieur.
J'étais mal vu de la cour, en revanche, ma popularité n'avait jamais été aussi grande dans la ville. Il n'en était pas de même de celle de mon père. Son attitude pendant la révolution de 1848 lui valait la rancune des étudiants et du petit peuple. Lui, qui avait été l'idole des Viennois, ne put supporter cette disgrâce. C'est tout autant de chagrin que de la scarlatine qu'il mourut, tout juste âgé de 45 ans. Les Viennois sont gens de cœur. Pris de remords, ils lui firent des funérailles grandioses. Quant à moi, bien que mon père nous eût abandonnés, j'éprouvais un immense chagrin. Quelques jours après sa mort, je donnai un concert que je dédiai à sa mémoire. La disparition de mon père en faisant de moi le nouveau roi de la valse chargeait mes jeunes épaules d'une responsabilité écrasante. Il y avait les répétitions, les concerts, les tournées, les compositions. Je menais une existence à la fois enivrante et épuisante. Les médecins étaient formels, une cure dans une maison de repos était indispensable. Dans mon lit, j'eus tout le temps de réfléchir à l'avenir. Mon frère, Joseph, était venu me voir. Je lui fis part de mes réflexions. Joseph, je suis le roi de la valse, n'est-ce pas?
Bien sûr. Qui songerait à te disputer ce titre?
Seulement voilà, un roi ne peut tout faire. Il me faudrait un vice-roi. Ainsi, je pourrais avoir deux orchestres qui se produiraient en même temps pour jouer ma musique.
Mais ce vice-roi, il faudrait qu'il soit digne de toi.
Eh bien, je l'ai trouvé. C'est toi.
Moi? Tu plaisantes. De toute façon, je ne peux pas diriger un orchestre en public. Je suis trop laid. Je n'ai pas ton physique.
Peut-être, mais tu es bien meilleur musicien que moi. Et puis Joseph, les Strauss, c'est une famille avant d'être un homme. Notre mère a besoin de chacun de nous. Alors Joseph, je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Thank you. Et c'est ainsi que la tribu des Strauss s'enrichit d'un musicien de plus. Ce renfort était le bienvenu, car mon orchestre était réclamé aux quatre coins du pays. Bientôt, sa réputation s'étendit au-delà des frontières. Le tsar de Russie, Alexandre II lui-même, était impatient d'entendre ce jeune musicien dont l'Europe commençait à parler. Si bien qu'un beau jour de 1855, je m'embarquais avec armes, bagages et musiciens pour Saint-Pétersbourg. J'étais loin de soupçonner la présence du tendre piège qui m'attendait dans la capitale russe. Ce piège avait des cheveux dorés comme les blés mûrs, des yeux bleus comme la mer, et s'appelait Olga Smirnitsky.
Olga, durant ce concert hier soir, je n'ai pensé qu'à vous. En apparence, je dirigeais mes musiciens, mais devant mes yeux, c'était votre image qui se mêlait à ma musique.
Que vous êtes amusant, mon cher Jean. Cela ne vous ennuie pas que je vous appelle Jean. Je trouve ce nom plus doux que Johan.
Mais je sais, vous aimez tout ce qui est français. Moi, j'aime tout ce que vous aimez. Alors vive la France.
Jean, ah, vous n'êtes pas sérieux. Mais vous êtes gentil quand même. Et quand vous allez retourner à Vienne, je vais bien m'ennuyer.
Mais je ne vais pas retourner à Vienne, du moins pas sans vous. Olga, voulez-vous m'épouser?
Jean, nous nous connaissons depuis 3 semaines et vous voulez que nous nous lions pour la vie?
Olga, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes spirituelle. Je n'ai pas eu besoin de plus de 3 semaines pour comprendre tout cela.
Eh bien, allez donc vous expliquer avec ma redoutable mère. Je crains qu'elle ne soit pas aussi convaincue que vous de toutes mes qualités.
Mon pauvre monsieur Strauss, vous n'avez donc pas compris?
Mais compris quoi, madame Smirnitsky?
Que ma fille n'agit qu'au gré de son caprice. Aujourd'hui, vous l'amusez. Demain, vous la lasserez.
Oh, madame, comment pouvez-vous dire cela de votre propre fille? Je lui ai demandé de m'épouser parce que je suis convaincue qu'elle est sincère.
Monsieur Strauss, assez d'enfantillage. De toute façon, une Smirnitsky ne saurait épouser un artiste, si célèbre soit-il.
Parti pour Vienne. Olga épousa un autre homme. Mais je gardais longtemps au fond de moi une blessure secrète. Heureusement, la musique était là pour me consoler. Toujours d'autres concerts, toujours d'autres publics réclamaient le nouveau roi de la valse. Et puis, un autre visage de femme vint estomper le souvenir d'Olga. Jetty avait quelques années de plus que moi, et ce que j'appréciais en elle, c'était son assurance, son calme, qui contrastait avec ma nature fantasque. Elle aussi avait coutume de m'appeler Jean.
Jean, il est temps que vous songiez à votre avenir.
Mon avenir, mais il est tout tracé, mon avenir. J'engagerai des musiciens de plus en plus nombreux, je donnerai des concerts de plus en plus éclatants et je remporterai de plus en plus de succès, vous voyez, c'est simple.
Non, Jean, vous avez trop de talent pour rester un baladin qui s'agite sur son estrade. C'est en composant de la musique, plus qu'en jouant, que vous vous assurerez une gloire éternelle.
Oh, je n'en demande pas tant. Du moment que j'apporte du plaisir à ceux qui m'écoutent, je suis content.
Eh bien, vous avez tort, Jean. Bien longtemps après que nous aurons quitté ce monde, vous et moi, votre musique demeurera dans le souvenir des hommes. Ce ne sont plus seulement des valses que vous composerez, mais aussi des opéras.
Moi, des opéras? Oh, décidément, Jetty, seule une femme comme vous pouvait me le dire sans que je lui rie au visage.
Mon mariage avec Jetty avait changé le cours de ma carrière. Désormais, je n'étais plus un simple batteur qui faisait danser la foule viennoise. De cette période de création devaient sortir ces œuvres qui allaient assurer l'éternité de mon nom. Le beau Danube bleu, la vie d'artiste, histoire de la forêt viennoise, aimer, boire et chanter. La valse de l'empereur.
Ce n'était plus simplement des musiques à danser, c'était avant tout des musiques à écouter. De toutes ces valses, la plus célèbre est incontestablement le beau Danube bleu. C'est grâce à elle que mon nom restera dans la mémoire des hommes. Et pourtant, sa première audition fut loin d'être un triomphe. Il faut dire que j'avais eu l'imprudence de confier ma partition au chef d'une chorale viennoise, lequel eut l'idée étrange de faire mettre des paroles sur ma musique. Et quelles paroles ? C'est un agent de police, poète amateur, qui les avait écrites. Ce digne représentant de l'ordre avait tout simplement décidé de célébrer les nouveaux réverbères à arc électrique qu'on venait d'installer dans les rues de Vienne. Très poétique, n'est-ce pas ? Le poème commençait ainsi. Vienne, sois joyeuse, et pourquoi donc ? À cause de la lumière de l'arc, ici, il fait encore sombre. Éclat de rire. Mais moi, j'étais furieux. Je vais jeter mon beau Danube bleu au panier, tu entends, Jetty ?
Jean, calme-toi. Ce sont ces paroles ridicules qui sont la cause de l'échec. Mais ta musique est magnifique.
Bah, j'essaie de me consoler, mais je sais bien qu'elle ne vaut rien. Je vais la brûler, te dis-je.
Tu aurais bien tort, car un jour, le monde entier la chantera.
Je suivis heureusement le conseil de Jetty. Curieusement, c'est à Paris que mon beau Danube devait trouver la consécration. En cette année 1867, toute l'Europe avait les yeux fixés sur l'exposition universelle qui se tenait à Paris. J'y fus invité avec mon orchestre et mon premier concert, je le donnais chez l'ambassadeur d'Autriche, le prince de Metternich. L'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie y assistaient. Ils me firent un accueil si enthousiaste que je dus jouer beaucoup plus longtemps que prévu, si bien que, ayant épuisé mon répertoire, je jouais le beau Danube bleu, un peu comme on se jette à l'eau. Ce fut du délire. L'empereur me félicita personnellement. Tous les orchestres français voulurent jouer ma valse et ma musique reçut à Paris un accueil qui ne s'est jamais démenti depuis. C'est aussi grâce à la France que je devais connaître mon plus grand succès lyrique. Jusque-là, je n'avais guère été heureux dans ce domaine. Un jour, Jetty, l'air triomphant, entra dans mon cabinet de travail.
Jean, cette fois, ça y est, nous tenons un triomphe.
Mais tu as dit ça chaque fois, ma chère Jetty, et chaque fois, mes opérettes ont été sifflées. Ma musique n'est pas faite pour le théâtre lyrique.
Mais parce que les livrets que tu as eus étaient mauvais. Mais je viens de lire une pièce excellente qui fera une délicieuse opérette. Elle est de Meillac et Halévy, les collaborateurs habituels d'Offenbach. C'est une garantie.
Et quel est le titre de cette pièce miracle ?
Le titre original est Le Réveillon, mais les auteurs proposent de l'appeler La Chauve-souris.
Thank you.
Ce fut en effet une réussite. Soudain, ma musique, qui jusque-là n'avait jamais pu s'accommoder d'une représentation scénique, ma musique gagnait tous les cœurs. Mais je ne devais retrouver un tel triomphe qu'en une seule occasion, lorsque je composais bien des années plus tard la partition du Baron de Ziegen. Les années passaient. Si chacune d'elles m'apportait une gloire nouvelle, elle m'apportait aussi de bien cruels chagrins. Ce fut d'abord la mort de ma chère maman, puis celle de mon frère Joseph. Jetty, à son tour, disparut brusquement. Je me sentais soudain très seul. Un second mariage n'arrangea pas les choses. Angelica, ma nouvelle épouse, se montrait frivole et je fus tout heureux d'accepter le contrat fabuleux qu'un impresario américain m'offrait pour aller diriger mes œuvres à l'occasion du festival de Boston. Mais quand je compris ce qu'on attendait de moi, je fus épouvanté.
Mr. Strauss, ça va être formidable. En Amérique, nous avons le goût du gigantesque. Vous aurez 2000 musiciens et 20 000 chanteurs.
Mais, Monsieur Gilmore, il est impossible à un homme seul de diriger une pareille population.
Mais vous ne serez pas tout seul. Vous serez placé tout en haut d'une tour. En bas, il y aura 12 chefs qui regarderont vos gestes et qui les répéteront pour musiciens et les chanteurs.
Et comment ferais-je partir cet orchestre monstrueux?
Par un coup de canon. Original, n'est-ce pas, Mr. Strauss?
Mais en voilà assez, Monsieur Gilmore. Je suis un musicien, pas un général d'artillerie. Je refuse de diriger votre cirque. Je paierai le dédit.
Comme vous voudrez, Mr. Strauss. Mais je connais mes compatriotes. Ils sont 200 000 dehors à vous attendre depuis des heures. S'ils apprennent que vous ne voulez pas jouer, ils sont capables de tout casser et de vous lyncher.
De me lyncher?
Oui, chez nous, c'est de cette façon qu'on manifeste sa déception.
Devant la menace, je dus me prêter à cette mascarade qui n'avait rien à voir avec la musique. Peu à peu, cependant, l'Amérique me séduisit, mais je regagnais quand même ma chère ville de Vienne, avec soulagement. Depuis longtemps, je m'étais réconcilié avec l'empereur François-Joseph, et un jour, de 1898, il m'appela auprès de lui.
Mon cher Strauss, à l'occasion du 50e anniversaire de mon règne, je serais heureux que vous dirigiez un vaste concert populaire.
Rien ne pourrait me causer plus de joie, sire. C'est un plaisir de jouer pour votre majesté.
Vous n'avez pas toujours dit ça. Rappelez-vous quand vous grimpiez sur les barricades en criant « mort au tyran ». Le tyran, c'était moi.
50 ans après, j'en suis encore confus, sire.
Ne regrettez rien, mon cher Strauss. C'était le bon temps. Nous étions jeunes, vous et moi. C'est-à-dire un peu fous, mais c'est avec de la folie qu'on fait de grandes choses.
Ce fut ma dernière apparition en public. L'année suivante, en 1899, à l'aube du XXe siècle, par un beau jour de printemps, j'allais rejoindre l'Orchestre Céleste. Mais le destin, décidément bien généreux avec moi, me fit une dernière faveur. C'est en composant une nouvelle valse que Johann Strauss quitta cette terre.
Et maintenant, laissons-nous transporter par le beau Danube.
Thank you.
l'émission Prélude tous les lundis de 15h à 16h et tous les mercredis de 14h à 15h, rediffusion le samedi et dimanche de 7h à 8h. Bonne semaine à tous.